As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager. Customers are rushing to your store. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. Shopify.com/theathletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique en ce jeudi 29 juillet, au lendemain de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bon matin Arpin, ça va?
Salut Marc-Antoine, ouais, ça va super. Ça va super. Mercredi c'était journée paisible.
Paisible, hein?
Pas fait grand chose, léger.
Non.
Ouais. Ça, pas comme si, ouais, c'est ça. C'était... Écoute, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ce que le Canadien a fait mercredi sur le plan hockey. Il y a d'autres choses que le Canadien a fait mercredi. On a tous les deux écrit là-dessus. Vous pourriez tous aller à athletic.com en ce moment, lire nos textes là-dessus. Mais on va essayer de se concentrer sur le business de mercredi, un peu ce que le Canadien a fait, ce que Marc Bergevin a réussi à faire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Est vraiment concentré sur le côté hockey. Si
ouais.
Tu veux voir ce que Jeff Molson avait à dire concernant le choix de Logan Mailloux, on vous invite à aller voir sur athletic.com, le lire, mais en ce moment, on aimerait un peu compenser sur ce qu'on n'a pas fait mercredi et parler un peu des nouveaux venus chez les Canadiens, puis aussi les joueurs qui ont quitté ouais. Le Canadien aussi.
Exact. Fait qu'écoute, je pourrais bien y procéder par ordre alphabétique puis commencer par Louis Belpedio, mais j'ai quelque chose qui me dit que ce serait un petit peu anticlimax. Fait qu'on va regarder...
Il fallait que je consulte HockeyDB là-dessus. Là.
Honnêtement, ah ouais, hein?
Honnêtement, tout respect à M. Belpedio, mais ouais. il fallait que je consulte sa fiche sur HockeyDB.
après okay. la signature. J'ai vu, je l'ai vu tellement passer souvent au balotage, tu sais, à la fin des camps d'entraînement, là, systématiquement, le Wild le mettait au balotage avant voilà. le début de la saison. Et puis finalement, écoute, ça va quand même. Bon, on va régler la question tout de suite avec Belpedio. Il s'en ouais. va jouer à droite à Laval. Hein. À part Josh Brook, il n'y a pas grand défenseur droitier à Laval. Fait que voilà, vous avez la réponse derrière ça. Écoute, deux gros noms, je pense, en particulier, qui ressortent. Mike Hoffman, puis David Savard. Alors, si on commence par... Écoute, David Savard, le nom, la rumeur circulait quand même depuis quelques jours. Visiblement, Marc Bergevin a décidé, dans l'optique de remplacer Shea Weber, qu'il ne pouvait pas trouver un seul défenseur pour remplacer Shea Weber. Tu ne peux pas non plus te faire un comité puis en avoir trois pour remplacer un seul gars. Alors, il est allé par qu'est-ce qui est le plus important à remplacer chez Shea Weber? Et à cet effet-là, il s'est concentré sur ce qui a fait apporter du succès à l'équipe, surtout en séries éliminatoires au printemps dernier et cet été, à savoir tout l'aspect défensif de son jeu. C'est pour ça qu'en amenant Savard, un gars qui est bon des avantages numériques, un gars qui nettoie le filet, qui bloque des lancers, etc., il continue dans la même veine, il persiste et signe avec la philosophie qu'il avait établie dans la constitution de sa brigade défensive l'été dernier. Est-ce que c'est le bon pari à prendre ou est-ce que tu as l'impression qu'à quelque part, il y avait un mélange des genres qui aurait été souhaitable de dire si le Canadien avait été en mesure de trouver un défenseur top 4 à caractère plus offensif que Savard, il s'en sortirait mieux?
Ah ben, écoute, je pense qu'il s'en sortirait mieux avec Dougie Hamilton, on s'entend, mais Dougie Hamilton a signé pour 9 millions par année avec les Devils du New Jersey. Alors, il y a aussi les réalités de sa masse salariale que Marc Bergevin devait se tenir compte. Et écoute, il a admis ouvertement qu'il aimerait ça, ajouter un défenseur plus à caractère offensif, puck-moving defenseman, comme tout le monde les appelle. Ce qu'il n'a pas trouvé sur le marché des joueurs autonomes, mais honnêtement, à part Dougie Hamilton, il n'y avait pas énormément de choix sur le marché. Je pense que remplacer Weber avec Savard, ça avait du sens. Ça avait du sens à cause du fait que le Canadien a établi une certaine identité en défense. Ça leur a porté fruit en séries éliminatoires. Je pense qu'il a raison de le dire. Puis écoute, il y avait beaucoup de mouvements défenseurs avant l'ouverture du marché. Peut-être que Marc Bergevin aurait pu être un peu plus actif dans tout ce mouvement-là qui s'est produit dans la semaine ou 10 jours avant, ou deux semaines, dans le fond, avant l'ouverture du marché. Mais étant donné qu'il n'a pas fait ça, le choix de David Savard était tout à fait logique. C'est quand même un bon défenseur, quelqu'un qui devrait avoir un fit avec le groupe, puis ils peuvent maintenir, si Savard joue bien, évidemment, mais s'il reste qui il est, s'il reste dans son jeu, il devrait être capable de satisfaire les exigences du Canadien au niveau de robustesse, toutes les choses que tu as mentionnées, des avantages numériques, bloquer des tirs, etc. Mais c'est vrai que le mix en défense est pas super. Et c'est pas pour dire que Shea Weber, c'était quelqu'un qui bougeait bien la rondelle nécessairement. Là, c'était pas le cas, évidemment. Puis là, on sait un peu pourquoi. Il était déjà pas mobile, mais il jouait avec une tonne de blessures. Alors, ça n'a pas aidé sa mobilité. Alors, c'est pas comme si ils ont perdu quelqu'un comme ça. Mais ça serait probablement souhaitable pour Marc Bergevin d'avoir des options en défense pour qu'effectivement, il peut peut-être un peu faire, ou Dominique Ducharme peut faire la défense un peu sur mesure pour toutes les phases du jeu que Dominique Ducharme aimait parler. Il adorait dire ça pendant toute la saison, que le jeu change au fur et à mesure que la saison avance, puis que les séries arrivent. Alors, d'avoir des options pour que lui aussi peut changer sa brigade défensive en fonction de quelle phase de la saison il se retrouve, ça serait souhaitable, oui.
Mais, tu sais, Savard a été signé pour 4 ans à 3,5 millions par année, donc salaire annuel identique à celui de Ben Chiarot et Joel Edmundson, donc défenseurs dans la même veine. Je pense que dans un monde idéal, ces gars-là seraient sur trois paires différentes et fournirait chacun à leur duo ce type de présence-là. T'sais. Et à défaut d'avoir un top 4 très, très fort, s'il y avait moyen de pouvoir répartir les forces pour avoir trois duos plus équilibrés, ce serait intéressant. Mais sauf que je pense que la profondeur et la quantité de candidats chez le Canadien à l'heure actuelle ne permet pas vraiment de fonctionner de cette manière-là. Fait que je pense que c'est sûr que Alexander Romanov va prendre du galon, mais c'est pas. Je pense que Brett Kulak est encore à Montréal. On verra s'il réussit à maintenir un poste régulier dans l'alignement, mais clairement, Bergevin va continuer avec son esprit top 4. Puis, tu mentionnais tout à l'heure les nombreux mouvements en défense. T'sais, ça a été incroyable dans les deux dernières semaines, la quantité de défenseurs qui ont changé d'adresse. Puis parmi eux, des gars qui auraient pu être intéressants. Shane Gostisbehere, je pense, il a été donné carrément là, par les Flyers de Philadelphie. C'est un gars qui gagne quoi, 4 millions 25 par année, quelque chose comme ça.
Ouais, il t'a pas seulement donné. Les Flyers ont payé les Coyotes pour le prendre. Là. C'était pire que donné. Là. Ça coûtait quelque chose aux Flyers pour le perdre.
Ouais, alors tu sais, je sais pas si lui, ça aurait pu être un candidat. Moi, je suis un petit peu jaloux de ces mêmes Flyers pour avoir donné un contrat à Keith Yandle pour seulement 900 000 $. Pour moi, c'est le genre d'aubaine qui aurait été parfait pour le Canadien. Donnez-moi-en du Keith Yandle à 900 000 là, n'importe quand. Mais bon, écoute, je pense que dans la logique actuelle, c'est correct. Les défenseurs à caractère offensif sont rares et je pense que il y aura toujours moyen peut-être de voir si sur le marché des transactions, c'est possible d'aller en chercher un. Mais tu sais, ce qui est intéressant à propos de Savard, c'est que on a beaucoup parlé des joueurs il y avait des spéculations à travers la Ligue quant aux intentions des joueurs de venir jouer au Canada la saison prochaine à cause de la différence dans les mesures sanitaires par rapport à la COVID qui existe entre les États-Unis et le Canada. Mais dans le cas de Savard, j'ai l'impression que la COVID a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'après 15 mois de pandémie, sa blonde et lui se sont sentis loin de la maison. Et c'est sûr que le fit avec le Canadien était bon, le salaire lui convenait également, mais l'idée de pouvoir se rapprocher de leur famille respective a aussi joué dans la balance. Fait que c'est peut-être un cas où, tu sais, tout l'aspect pandémique de la réalité qu'on vit a créé un effet inverse puis peut-être plus favorable qui a aidé à attirer Savard à Montréal, à le ramener à la maison en quelque sorte. Fait que ça, c'est, je pense que c'est intéressant.
Oui, effectivement, ben il faut penser c'est combien de temps David Savard n'a pas pu voir sa famille, pas sa famille immédiate, évidemment, parce que tu sais, il y a trois jeunes enfants. Qui sont sur le point d'arriver à l'âge scolaire. Là. Puis il y en a un, je pense que c'est 6, 5 et 18 mois, si la mémoire est bonne. Alors, effectivement, quand tes enfants sont de l'âge scolaire, tu commences à penser, oh, j'aimerais ça les envoyer à l'école en français. Tu sais, des choses qui empêchent beaucoup de joueurs de venir s'installer à Montréal. C'était attirant pour David Savard parce qu'effectivement, il l'a mentionné lui-même qu'il aimerait ça envoyer ses enfants à l'école en français. Alors ça, tout d'un coup, c'était un avantage pour le Canadien. Tant mieux. C'est un gars qui voulait être ici. Puis ça, on le sait, c'est peut-être le premier facteur en importance de Marc Bergevin, c'est qu'il ne veut pas avoir à convaincre quelqu'un de venir. Il n'aime pas nécessairement avoir à convaincre un joueur qui a Montréal sur sa clause de non-échange, le convaincre de l'enlever. Il l'a fait avec Eric Staal, oui, mais ça, c'était surtout à cause de la frontière et tout ça. C'est pas, il n'y avait rien contre le Canada nécessairement, mais à cause de la frontière dans le COVID, je pense qu'il avait mis les équipes canadiennes sur sa liste, mais finalement, il était convaincu. Mais en principe, en général, comme philosophie, Marc Bergevin quand il y a un joueur qui a Montréal sur sa liste de non-échange, il préfère le laisser faire. Si tu veux pas être là, moi je te veux pas non plus. Alors, c'est comme ça. Alors, le fait que David Savard était tellement enthousiaste, qu'il voulait ramener sa famille chez lui, qu'il était très ouvert à n'importe quelle offre que le Canadien allait faire. Évidemment, il fallait que ça soit juste ou tu sais, c'est quelque chose qui était proche de sa valeur sur le marché. Le chiffre de 3,5 millions, je pense que c'est quasiment comme si Marc Bergevin a établi sa propre plafond salarial pour les défenseurs défensifs. Là. C'est comme, vous allez recevoir 3,5 millions puis pas un sou de plus. Là. Alors, alors là, il y en a trois. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant. Puis le contrat est quand même... Quand tu regardes les contrats qui ont été donnés hier, puis à un moment donné, tu sais, je voyais que tu sais, Cody Ceci allait avoir plus que 3 millions de dollars par année. Yes. Tu sais, il y avait des choses qui se passaient au niveau des défenseurs. Il y avait un marché de surenchère pour des défenseurs, surtout de caractère défensif et costaud,
ouais.
En regardant ce qui s'est passé en série, non seulement avec les Canadiens, mais le Lightning de Tampa Bay. Leur top 4 en défense était pas facile à jouer contre, comme Michel Therrien aimait dire. Puis en plus, tu as ajouté David Savard sur le troisième pair. Les Islanders New York, même affaire. Vegas Golden Knights, même affaire. C'est vraiment le quatuor final dans le tournoi de la Coupe Stanley. Il était vraiment bâti comme ça en défensive. Alors, il y avait beaucoup de niaiseries qui se passaient. Écoute, si tu me donnes le choix entre Cody Ceci pour 4 ans à 3,25 millions de dollars par année ou David Savard pour 4 ans à 3,5 millions de dollars par année, c'est une aubaine que Marc Bergevin vient de recevoir dans la personne de David Savard.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, absolument. Absolument. Je pense que c'est quoi? C'est Derek Forbort qui est allé chercher 3 millions des Bruins aussi. Il s'est donné quand même beaucoup d'argent. C'est un peu étonnant. Travis Hamonic qui reste à Vancouver pour 3 millions de dollars également. Donc, dans ces eaux-là, je trouve que le Canadien s'en tire assez bien. Savard a 30 ans. Fait que c'est un contrat de 4 ans, c'est sûr que ça l'amène là, à la mi-trentaine. Heureusement, il n'y a pas le profil où est-ce que tu t'inquiètes que ses principaux atouts disparaissent rapidement. T'sais, il a un style de jeu qui peut l'amener quand même à jouer assez tard. C'est un gars qui a été dans l'ensemble assez... qui a maintenu la santé. Fait que ça, c'est intéressant. Il n'a pas trop été hypothéqué par les blessures. Je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne signature. C'est intéressant pour Montréal. Écoute, si on passe à Mike Hoffman... Donc, la dernière transaction, la dernière embauche qu'a faite Marc Bergevin à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, clairement désigné pour remplacer Tomáš Tatar, remplacer sa production en termes de buts. Le Canadien l'a signé donc pour 3 ans à 4,5 millions par année. C'est moins que ce que Hoffman, semble-t-il, voulait. C'est moins que ce qu'il voulait l'année dernière également. C'est la deuxième année de suite qu'il se retrouve sur le marché. C'est intéressant de noter, par exemple, que selon notre collègue Jeremy Rutherford de Saint-Louis, qui écrit pour The Athletic à Saint-Louis, les Blues ont fait une charge à la 11e heure pour essayer de retenir ses services, mais en bout de ligne, ils lui offraient quand même moins que ce que le Canadien a offert à Hoffman. Tu penses quoi de cette embauche-là, toi?
Ben, premièrement, ce que tu viens de mentionner, ça moi, je tiens ça. Je tiens beaucoup à ça. Tu sais, quand tout le monde était en train de freaker sur l'embauche de Ben Sherratt il y a quelques années, là, moi, ce que j'ai tenu là-dedans, c'est que les Jets voulaient le signer, puis c'est Ben Sherratt qui a quitté. Alors, quand une équipe connaît le joueur, connaît ses défauts, connaît ses forces, connaît son caractère, entre guillemets, connaît sa personnalité, connaît tout ce qu'il y a à connaître sur le joueur. Quand cette équipe-là décide que, OK, ça vaut la peine de le garder avec nous, peu importe l'offre de contrat ou quoi que ce soit, là, ça me dit quelque chose. Ça me dit que tu sais, il a pas été rejeté par son équipe. Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur. Dans le cas de Mike Hoffman, je tiens à ça encore plus parce qu'il y a des questions sur comment il est comme coéquipier, comment son caractère, effectivement. Tu sais, il était,
son éthique de travail. Beaucoup.
Son éthique de travail. Il était healthy scratch de temps en temps par Craig Berube à Saint-Louis. C'était pas tout le temps smooth avec les Blues. Alors, mais... À mes yeux, ce que ça démontre l'intérêt des Blues de le garder, c'est pas que tout d'un coup il a réglé son problème d'éthique de travail et que tout d'un coup il est devenu le meilleur coéquipier au monde. Non. C'est que lui, sa force, c'est quelque chose de rare et ça vaut quelque chose. Et le Canadien en a besoin. Combien de fois est-ce qu'on dit que le Canadien, ils ont besoin d'un finisher, ils ont besoin de quelqu'un qui peut finir des jeux? Ben, c'est ça que Mike Hoffman fait, puis il fait depuis longtemps. Puis il fait avec une efficacité qui est quand même assez remarquable et constant. Pas que son jeu est constant, mais cette tir-là, il est capable de battre des gardiens avec ce tir-là, avec une constance quand même assez régulière. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un écran devant le filet, il n'y a pas nécessairement besoin de mouvement. Il est capable de juste prendre un tir et battre un gardien du calibre de la Ligue nationale avec ce tir-là d'une distance de 20, 30, même 40 pieds des fois. Alors ça fait longtemps qu'on dit que Candy a besoin de quelqu'un comme ça. Quand Cole Caulfield est arrivé, que lui aussi il a cet atout-là, on disait finalement le Candy a quelqu'un comme lui pour faire ça. Mais là, il y en a deux. Puis ce qui est intéressant dans le cas d'Hoffman, c'est que là, tu peux en avoir un de chaque bord de ton avantage numérique.
C'est ça que j'allais dire.
Il y a Caulfield au cercle gauche, tu as Hoffman au cercle droite. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Écoute, je ne fais pas la comparaison, mais juste en termes de style, de menace en avantage numérique, c'est la même dynamique qui existe avec le Lightning de Tampa Bay, avec Stamkos d'un bord, Kucherov de l'autre. Évidemment, on parle d'une gamme de joueurs qui est beaucoup plus élevée, mais ça crée cette dynamique-là sur le jeu de puissance. Puis c'est un changement que les Canadiens ont besoin. Puis à mes yeux, c'est surtout ça qui a motivé la signature ou l'embauche de Mike Hoffman, c'est l'avantage numérique et son impact là-dessus.
Oui, absolument. Puis j'y vois aussi indirectement un impact du départ de Shea Weber. Shea Weber, pendant des années, a été considéré comme étant un élément central de l'avantage numérique. Il a été de moins en moins à mesure que la dernière saison a avancé. Sauf que là, par la force des choses, le Canadien se dit « OK, là, on est forcé ». De délaisser le modèle traditionnel où c'est un lancer de la pointe qui stimule notre attaque à 5 en envoyant une rondelle au filet et soit par un lancer sur réception de Weber qui peut tromper le gardien ou encore pour générer un retour puis un Noga à cause de la supériorité du nombre saute sur le retour. Là, on délaisse cet aspect-là puis on approche la menace en la mettant sur les cercles. Puis tu as tout à fait raison par rapport à Stamkos et Kucherov. Je trouve que ça peut faire toute la différence pour le Canadien cette année. Si Caulfield et Hoffman se retrouvent sur la même unité attachés au truc, je pense que le Canadien va pouvoir être en mesure de marquer beaucoup de buts à ce niveau-là. Puis écoute, toute la valeur de Hoffman réside là. Parce que à 5 contre 5, c'est très tranquille. C'est pas. Notre collègue Dom Lechichin soulevait que sa moyenne, sa production de points à 5 contre 5, si mettons, tu mets ça sur 60 minutes, était l'équivalent d'un joueur de quatrième trio. Alors, il produit pas beaucoup à 5 contre 5. Je ne sais pas dans quelle mesure, étant donné que la majorité du match se déroule à 5 contre 5, et que au fil des ans, depuis ses années juniors, Hoffman a parfois été un joueur peut-être difficile à motiver ou à garder dans des dispositions où est-ce que tu vas chercher un plein effort en termes de responsabilité puis d'éthique de travail ou d'ardeur au travail, en fait. Je ne sais pas s'il va tester la patience de Dominique Ducharme à cause de ça, mais je suis allé vérifier, puis ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré le fait qu'il ait des statistiques douteuse à 5 contre 5. Si tu vas dans toutes, si tu regardes toutes les situations où il était sur la glace, ok, je prends les trois dernières années, les deux années qu'il a passées en Floride, puis l'année dernière à Saint-Louis. Tu mets toutes les situations, 5 contre 5, avantages numériques et tout. Quand il était sur la glace, son équipe a marqué 245 buts. Et l'autre équipe en a marqué 158. Fait que c'est un écart qui est, somme toute, très intéressant. Fait que tu dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, le fait qu'il contribue à l'avantage numérique, mais il ne contribue pas à 5 contre 5? Peut-être que j'ai pas étudié avec suffisamment. Je sais qu'à Saint-Louis, il a passé quand même pas mal de temps sur le troisième trio. Peut-être que d'avoir des coéquipiers qui sont un peu plus à caractère défensif à 5 contre 5 l'ont isolé. Puis même s'ils ne produisaient pas, ben l'autre équipe ne marquait pas tellement de buts. Puis ça aide le entre guillemets, le plus et moins de ces chiffres totaux. Mais la balance est là. Fait que c'est une balance qui, somme toute, est plus positive que celle à laquelle je m'attendais. Puis je pense que ça va aider le Canadien peut-être à dormir sur ses deux oreilles puis à se dire, ben même si au quotidien, il y a des affaires qui vont nous accrocher chez Hoffman, puis qu'à un moment donné, il va nous avoir des cheveux blancs, ben si on regarde le bilan en bout de ligne, il va demeurer positif pour notre équipe, puis on va maintenir les caps avec ça.
Ouais, je pense que les chiffres qui frappent dans son cas. T'sais, sa colonne de buts est quand même impressionnante depuis 2014-2015 avec les Sénateurs d'Ottawa. Son premier saison complet en fait, de la Ligue nationale de hockey. Il avait quand même rendu, il avait 25 ans. Alors, il est arrivé un peu sur le tard, mais aussitôt qu'il est arrivé, il s'est mis à produire. La seule chose, c'est qu'il y a deux saisons où il y a quand même... Tu sais, sa meilleure saison offensive en carrière, c'était sa première saison en Floride. Avec 36 buts, 70 points, puis un moins 24. Alors, je pense, quand tu regardes ça, les plus et les moins, on s'entend, tu sais, ça ne dit pas grand-chose, mais des fois, tu peux soulever quelque chose de ça, puis ça saute aux yeux un peu, particulièrement quand...
Quand tu as marqué 36 buts.
Quand tu as marqué 36 buts, puis que comme Barkov était moins 3 cette année-là. Huberdeau était moins 14. C'est pas comme si toute l'équipe était dans les vingtaines. Là, c'était pas mal lui. Alors... mais encore une fois, et ça c'est quelque chose qui me dérange de notre évaluation des joueurs de hockey en général, c'est que de temps en temps il faut regarder ce qu'un gars fait bien au lieu de se concentrer sur ce qu'il fait mal. C'est comme quand tu regardes sa fiche, 27 buts, 29, 26, 22, 36, 29, 17. Le 17 était en 52 matchs, évidemment, à Saint-Louis l'année passée. C'est pas rien, là. C'est quand même une feuille de route qui est quand même assez constante. Ça fait, c'est quoi, c'est 2, 4, 6, 7 saisons de suite où il a marqué 20 buts, où il était sur le chemin pour le faire l'année passée. Évidemment, 17 buts en 52 matchs. On s'entend que dans une saison normale de 82 matchs, il aurait atteint le 20 buts. Alors, tu sais, chapeau à Marc Bergevin, je suis sûr. Puis tu sais, on a entendu des rumeurs où, dans les années précédentes où il cherchait quelqu'un, en fait, pas quelqu'un comme Mike Hoffman, il cherchait Mike Hoffman spécifiquement quand son nom se retrouvait sur le marché des échanges, tu sais, Floride, quasiment depuis le jour où il est arrivé en Floride, son nom était dans les rumeurs d'échange. Et le nom du Canadien était souvent lié avec lui. Alors finalement, ça portait fruit 2-3 ans plus tard. Puis je pense que, honnêtement, ce que Mike Hoffman apporte, ce qu'il est capable de faire, c'est quelque chose que le Canadien a besoin dans son aliment. Il avait besoin d'une façon quand même assez criante. Puis là, ils en ont deux. Alors, ça va changer pas mal la dynamique de l'offensive du Canadien, je trouve. Avoir deux tireurs qui sont capables de finir des jeux et qui leur marque de commerce, c'est vraiment de marquer des buts. C'est quelque chose que le Canadien en avait besoin beaucoup. Puis là, ils en ont deux, puis ils vont jouer un de chaque bord de la glace. Alors, ça devrait être intéressant, je trouve.
Il y a une chose à propos de Bergevin qui est de... Pas que c'est nouveau, mais qui s'est mis en évidence une fois de plus cette année dans une multitude de dossiers sur lesquels il a travaillé. c'est que c'est un gars qui... c'est un gars qui établit son prix pour chacun des joueurs. Et pour le meilleur et pour le pire, il ne bouge pas beaucoup de des valeurs qu'il a fixées à ces joueurs-là. Il se donne à lui-même. Tu sais, tu parlais tantôt qu'il a fixé son propre plafond salarial pour les défenseurs. Je pense qu'il fonctionne un peu de cette manière-là pour éviter de tomber dans des surenchères. Puis c'est encore plus vrai le 1er juillet où est-ce que tout le monde s'emballe puis dit « Ah, il y a une autre équipe qui offre plus, puis moi, je vais renchérir. » Je pense qu'il a appris des leçons de ça, puis il évite de surenchérir. Alors, il se dit « Ben moi, pour que je garde une certaine santé financière, une certaine chimie économique au sein de mon plafond salarial, de ma masse salariale, je ne peux pas me permettre de dépasser tel montant pour tel joueur que je veux placer à tel endroit. » Et puis, il respecte ça. Puis si jamais la situation fait en sorte que le gars qu'il a dans l'œil demanderait plus que ça, ben tant pis, ça ne fonctionne plus. Alors, dans le cas de Hoffman, c'est sûr, il est rendu à 31 ans, c'est pas un atout qui va aller en s'améliorant. Je pense qu'il va avoir 32 même au moment où la saison va commencer.
Il va avoir 32 le 24 novembre.
24 novembre, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, un peu, voilà. Mais c'est. Il continue quand même, il est à mesure quand même de continuer à donner. Je ne sais pas si ça va être pour les 3 années, mais certainement pour 1 an ou 2, de donner encore, de fournir des buts, entre autres en avantage numérique, puis d'aller chercher ce que Bergevin recherche. Et il l'a eu à un prix qui n'allait pas bouleverser tout son échiquier. Alors, ça, c'est ce que je remarque de Savard, de Hoffman, et aussi du fait que Philippe Dano n'est pas de retour avec le Canadien.
Ouais, exact.
Parce que, tu sais, je pense qu'en bout de ligne, Dano n'a pas vu toute cette situation-là comme étant une question d'argent. C'est clairement une question de rôle. Puis quand on lui a parlé hier, il est revenu là-dessus à une multitude de reprises. Pour lui, c'est le fait que, bon, en se retrouvant avec les Kings de Los Angeles, il devrait avoir du temps en avantage numérique. On ne lui demandera pas systématiquement de prendre des mises en jeu en zone défensive. Son temps de glace, étant un centre de deuxième trio, son temps de glace va être relativement protégé puis pas menacé à court terme. Alors, je pense qu'il a été rassuré là-dedans, mais dans la perspective du Canadien, c'est une question de dollars puis de dire, ben, tu sais, quand Marc Bergevin disait on aime bien Phil, mais, ben le mais, c'est que au-delà d'un certain prix, ce qu'il apporte aux Canadiens cessait d'avoir du sens et cessait de s'inscrire correctement dans ce que le Canadien voulait accomplir. Alors, je pense que il y avait une déconnexion là, qui était assez évidente entre les deux camps.
Ben écoute, Marc Bergevin, quand on l'a demandé la question sur Jesperi Kotkaniemi puis sa capacité de un peu c'est remplir le vide que Philippe Dano laissait. S'il était prêt à être un joueur de top 6, s'il était prêt à devenir le deuxième centre de l'équipe, tu sais, Bergevin a commencé avec une malaise qui est quand même assez rare de lui, tu sais, en disant que je me demande cette question-là presque chaque jour depuis deux semaines.
Oui.
Il savait pas la réponse, mais dans cette réponse-là, à un moment donné, il a mentionné le fait que, parce que plutôt dans sa disponibilité média mercredi, il a mentionné que s'il y a un joueur de centre sur le marché des échanges qu'on pourrait aller chercher, je serais intéressé, je vais essayer de garder mon œil là-dessus. Alors, quand il était demandé comment tu peux réconcilier le fait que ta Kotkaniemi, t'espères qu'il est capable de prendre ce rôle-là rendu à sa 4e saison dans la Ligue nationale, mais en même temps, tu vas chercher quelqu'un au cas où qui n'est pas capable de le faire. Comment tu fais ça? Comment tu peux balancer les deux? Puis il a dit, dans sa réponse, tu sais, il faut être prudent sur le marché des échanges, premièrement, parce qu'il y a un prix à payer pour chercher ces gars-là, mais je ne peux pas. Puis il a dit ça. Puis pense à Philippe Dano, quand il donne cette réponse-là. Je ne peux pas aller chercher un troisième joueur de centre qui va me coûter, 5 millions de dollars quand, c'est les mots de Marc Bergevin, là.
Ouais.
5 millions de dollars. Et toi, tu sais bien que on donne des prix, on donne des chiffres pour les différentes positions dans ton alignement, puis effectivement, avoir un troisième joueur de centre qui gagne cet argent-là, ça ne fit pas là-dedans. C'est grosso modo ce qu'il a dit. Là. C'est pas une citation directe, mais c'était ça l'idée. Alors, écoute cette réponse-là. Puis Philippe Dano qui signe pour 5,5 millions de dollars pendant 6 ans avec les Kings de Los Angeles après avoir rejeté un contrat en septembre de 6 ans pour 5 millions de dollars exactement. Ça dit quand même... Ça résume pas mal assez clairement le débat dans la tête de Marc Bergevin concernant Philippe Dano, parce que, écoute, c'est pas que Marc Bergevin n'aime pas Philippe Dano, voyons donc, il l'a recruté pour les Blackhawks de Chicago, c'est lui qui a vraiment fortement influencé les Blackhawks de le repêcher en première ronde, d'aller le chercher dans un vol criminel contre les Blackhawks de Chicago, contre Thomas Fleischmann et Dale Weiss, probablement le meilleur échange de la carrière de Marc Bergevin, même si lui, il tient sur l'échange Weber-Subban. On s'entend que c'est clairement celui-là. Mais il y avait un problème de philosophie parce que Philippe Dano se voyait comme étant le joueur que les Kings ont présenté, qu'eux aussi lui voyaient comme ça. Un joueur qui n'est pas strictement défensif, un joueur qui peut nous aider en attaque, qui va avoir du temps de glace en avantage numérique et qui ne serait pas mis dans des situations exclusivement défensive, comme il a été avec le Canadien. Même s'il a produit offensivement, même s'il était sur le premier trio du Canadien, les situations dans lesquelles il jouait étaient plus ou moins strictement défensives. Il commençait la grande majorité de ses présences avec des mises en jeu défensives, puis ça devient beaucoup plus difficile de produire à l'attaque quand c'est le cas, quand tu n'es pas en avantage numérique et quand à 5 contre 5, quand tu joues dans ces circonstances-là. Alors, c'est ça ce qui nous mène un peu au débat qui se passe dans la tête de Marc Bergevin, puis la décision qu'il fallait qu'il prend, c'est que, OK, je veux pas soumettre une offre à Philippe Dano, ce qui a clairement été le cas, et Marc Bergevin et Philippe Dano a dit qu'il n'y avait aucun échange, aucune négociation depuis la fin de la saison et mercredi, parce que il y a cette situation-là avec Jesperi Kotkaniemi où l'organisation, ou au moins Marc Bergevin, n'est pas certain qu'il est capable de le faire, mais il ne peut pas nécessairement aussi bloquer le chemin, il ne peut pas nécessairement donner tout cet argent-là à un joueur que tu espères va devenir ton troisième centre bientôt, sinon tout de suite. Alors, c'était quand même délicat comme débat, là, mais là, rendu là, tu sais, Marc Bergevin a fini sa réponse en disant « Écoute, j'aimerais ça trouver quelqu'un pour qu'on puisse donner un peu plus de temps à Jesperi Kotkaniemi de se développer, de le cacher un tout petit peu, là, parce qu'il qu'il n'est pas tout à fait prêt pour ces responsabilités-là. Mais si jamais on se retrouve dans une situation où il faut qu'on se fie sur Kotkaniemi, on va le faire. On est confortable, puis on va le faire, puis il va falloir qu'on espère qu'il est capable de le faire. » Alors, ça rend le camp d'entraînement, qui est quand même genre dans 6 semaines, là, je m'en viens pas, mais ça rend le camp d'entraînement très, très, très important. Et dans le fond, ces 6 semaines-là où Kotkaniemi est en train de se préparer, j'imagine à un moment donné, il va commencer à se préparer à la maison en Finlande. Extrêmement important pour lui parce qu'il y a une fenêtre qui vient d'ouvrir, une porte qui vient d'ouvrir, une opportunité qu'il n'a pas vraiment eue depuis son arrivée à Montréal. Qui va vraisemblablement avoir rendu au camp d'entraînement à l'automne.
Ben, tu sais, c'est la raison pour laquelle, tu sais, quand on a publié notre grand, on dit en anglais, un primer notre présentation pré-joueur autonome, pré-marché du joueur autonome, on mentionnait dans les différents rôles que Marc Bergevin devait combler, les différents postes qu'il devait combler. On mentionnait justement le fait d'essayer de trouver pour remplacer Dano un joueur qui permettrait aux Canadiens de simplement de pouvoir être à la fois un centre de deuxième et troisième trio, c'est-à-dire de pouvoir donner le temps à Kotkaniemi de s'installer, de pouvoir peut-être, s'il se fait donner ce défi-là comme centre de deuxième trio, avoir un centre de troisième, mais s'il s'avère qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à prendre ces responsabilités-là, d'avoir une alternative suffisamment forte pour que ça n'endommage pas ou que ça n'affaiblisse pas le Canadien. Il y avait deux joueurs en particulier qu'on avait identifiés pour remplir ce mandat-là. Le premier, c'est Alexander Wenberg, qui était avec les Panthers de la Floride la saison dernière. Et puis Wenberg, ben, finalement, s'est retrouvé à signer un contrat de 3 ans hier avec le Kraken de Seattle à 4,5 millions par année. Fait que tu vois, c'est ça. On n'est pas très loin du 5 millions dont,
ouais,
parlait,
c'est ça.
dont parlait Marc Bergevin. Mais tu sais, Wenberg, c'est ça. C'est un middle six. C'est peut-être centre de deuxième, peut-être centre de troisième. Puis l'autre aspect, un favori de la maison, je pense qu'on l'aime bien tous les deux et on l'a vu abondamment durant la saison régulière, c'est Andrew Kopp des Jets de Winnipeg, qui lui n'est pas joueur autonome, mais tu sais, est-ce que le Canadien pourrait décider de lancer une offre hostile à un gars comme celui-là? Est-ce que tu penses que c'est un scénario qui, dans l'état où le Canadien se trouve actuellement au point de vue financier et avec le peu d'options qu'il a à sa portée, que c'est quelque chose qu'il pourrait envisager, une offre hostile?
Ben, non, je pense l'embauche de Hoffman, s'il y avait une chance, que je pense qu'il n'y en avait pas vraiment, mais s'il y avait une chance, la signature de Hoffman a un peu réglé ça. Là. Je pense que ça va être très difficile pour le Canadien de le faire parce qu'ils ont encore Kotkaniemi et Lekkonen à signer.
Ouais.
Ils ont un million de dollars. Ils se retrouvent à un million de dollars du plafond salarial. Ça inclut pas, évidemment, le salaire de Shea Weber qu'ils vont être capables d'utiliser pour dépasser le plafond salarial. Mais je pense que ça prendrait une offre quand même assez ridicule.
Ouais.
Tu sais, disons 6 millions par année là, pour Andrew Kopp.
Puis, c'est cher.
ça n'a pas beaucoup de sens. Mais à part ça, les Jets vont l'égaler là. Alors, c'est vraiment... Non, je pense que la façon d'aller le chercher, puis encore, je pense en fait c'est encore possible de le faire, ce serait par le biais d'une échange, d'une transaction.
Ouais.
Mais non, je pense pas que l'offre hostile est très réaliste là.
OK. Ben écoute, on va accélérer le rythme un petit peu. On va retourner. Tu sais, tu mentionnais Hoffman, la réputation. Nanana, c'est sûr que c'est pas un gars qui a la feuille de route, qui a le nom le plus propre à travers la Ligue nationale. Il y a un petit peu de bagage avec lui. Puis le prochain nom que je voulais t'amener, c'est celui de Chris Weidman, dont la carrière a été définie par une ride en Uber. De quelques minutes, qui a été capté sur vidéo par un chauffeur en Arizona. Et alors que Chris Weidman, alors qu'il était membre des Sénateurs d'Ottawa, avec plusieurs coéquipiers, s'est mis à déblatérer à l'endroit du personnel d'entraîneur des Sénateurs et tout particulièrement de Martin Raymond. Le chauffeur avait enregistré cette conversation-là par vidéo, par son rétroviseur, l'a finalement envoyé au Ottawa Citizen et ça a été publié aussi sur YouTube. Vous connaissez tous l'histoire. Ça a été un scandale de plus pour les Sénateurs. Et Chris Weidman, ça a été le début d'un long périple, plusieurs arrêts. C'est un joueur qui était moins établi dans la Ligue nationale que ses coéquipiers qui étaient dans le Uber avec lui. Il a été un petit peu le bouc émissaire de tout ça. Alors, pour un petit peu essayer de pouvoir tourner la page finalement sur ce dossier-là. Il est allé en Russie. Il a été nommé le défenseur de l'année en Russie l'année dernière. Et là, le revoilà en Amérique du Nord, dans l'organisation du Canadien, sur la base d'un contrat d'un an. On parlait en début d'émission du fait que les défenseurs aptes à bien transporter la rondelle étaient plutôt rares. Weidman, c'est ce genre de défenseur-là. Évidemment, il l'a fait davantage dans les niveaux inférieurs plutôt que dans la Ligue nationale, mais c'est quand même un gars qui a eu deux saisons honnêtes avec les Sénateurs d'Ottawa avant de se blesser. Est-ce que tu le vois comme étant un gars qui pourrait réussir à s'implanter à droite sur le troisième duo, ou tu le vois vraiment strictement comme un gars qui serait un septième, huitième défenseur, puis qui, dans le fond, il va être là, peut-être être utilisé un peu comme Eric Gustafsson, c'est-à-dire qu'il vient injecter de l'offensive de temps à autre quand l'équipe en a besoin, mais peut-être pas soir après soir.
Ben, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tantôt concernant les différentes phases de la saison. Tu sais, je pense que Chris Weidman, c'est un gars qui peut t'aider particulièrement en début de saison, quand le jeu est un peu plus ouvert, il y a un peu plus d'espace pour patiner. C'est quelque chose que lui, il fait très bien. Puis plus la saison avance, je vois un peu peut-être qu'il serait un peu moins utilisé, mais je pense qu'il y a une opportunité là. Il y a une ouverture sur le biret défensif du côté droit. C'est une opportunité pour lui. Le gars est super motivé là. Il voit cette voyage Uber là comme étant complètement, tu sais, ruiner sa carrière là. C'est vraiment un événement. C'est comme le seul gars qui se retrouvait dans cet Uber là. C'est le gars qui a eu les pires conséquences de cet incident-là, oui. C'est Chris Weidman. Oui. Il s'est mis à aller d'une équipe à l'autre. Il n'était pas capable de s'installer. En tout cas, notre collègue Jeremy Rutherford à Saint-Louis a écrit un texte quand même assez intéressant du parcours de Chris Weidman depuis cet incident-là. Mais tu sais, vu que Marc Bergevin a dit qu'il aimerait encore peut-être trouver un défenseur à caractère offensif, on peut pas dire que Chris Weidman va se retrouver nécessairement dans le top 6 canadien à l'ouverture de la saison, mais je pense avec l'ajout de David Savard, avec Alexander Romanov aussi qui va se retrouver encore une fois dans le top 6 canadien après avoir été écarté pendant toutes les séries, je vois pas ça comme nécessairement étant un cas où David Savard va se retrouver dans le top 4 du Canadien tout de suite. Si on se fie sur la philosophie ou la façon de voir les choses de Dominique Ducharme, que le hockey va par phase puis que ça évolue au courant de la saison, je peux facilement voir un scénario où il commence la saison avec David Savard comme étant le partenaire de Alexander Romanov. Lui donner quelqu'un de stable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut l'aider, un vétéran. Puis pas nécessairement dire que David Savard va être un gars de troisième paire, mais quand t'as un gars comme Chris Weidman, ou si Marc Bergevin est capable d'aller chercher quelqu'un, puis c'était intéressant pour moi aussi que Marc Bergevin a mentionné le nom de Mathias Norlander qui va se retrouver au camp d'entraînement. Il l'a mentionné. Ça veut pas dire qu'il va faire l'équipe, ça veut pas dire qu'il va jouer dans le top 6 dès le début, mais c'est quand même quelqu'un que Marc Bergevin a mentionné de son propre accord, tu sais. Personne ne l'a demandé qu'est-ce qui va arriver avec Mathias Norlander. Il parlait du fait qu'il cherche un défenseur qui est comme ça. Puis il y a ce gars-là qui arrive de la Suède, puis on va voir ce qu'il peut faire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour commencer la saison, mais ça me surprendrait pas ou ça me choquerait pas que Weidman se retrouve avec Ben Sherratt, disons, pour commencer la saison. Puis que les minutes soient beaucoup plus équilibrées qu'on a vu par le passé, parce que chez Weber, puis là. Tu sais, chez Weber, c'était pas facile de dire à chez Weber qu'on aimerait que tu joues moins. c'est pas quelque chose que tous les entraîneurs étaient comme « Oh, moi, je veux le dire à chez qu'il va jouer moins. » Tu sais, c'est comme « Non, ça fonctionnait pas comme ça. » Lui-même, il aimait pas cette notion-là que le plus âgé qu'il devenait, peut-être le moins il devrait jouer. Il voyait pas ça de cette façon-là. Alors, avec son départ, aussi malheureux que ça peut être, là, c'est quand même, ça donne l'opportunité aux Canadiens de revoir un peu la façon qu'ils organisent leurs défenseurs, leur paire de défenseurs, et la façon qu'ils leur donnent des minutes. Et alors, c'est ça, je pense ce qu'on va voir au début de la saison, là, je suis quand même assez confiant de dire que ce qu'on va voir au début de la saison, ça ne serait pas la même chose qu'on va voir à la fin de la saison, et si jamais le Canadien se qualifie pour les séries, en séries éliminatoires. Si le Canadien sera en séries éliminatoires, je suis assez confiant de dire que le top 4 du Canadien va être David Savard, Ben Sherratt, Joel Edmondson et Jeff Petrie. Mais avant ça, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes, puis je pense que Dominique Ducharme va essayer beaucoup de choses pour voir c'est quoi la meilleure façon d'organiser sa brigade défensive.
Ouais, c'est ça. Donc finalement, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que répartir Edmondson, Sherratt et Savard pour avoir un défenseur de ce type-là sur chaque duo, c'est quelque chose que tu verrais, surtout plus tôt dans la saison. Ouais. OK.
Ouais, écoute, c'est pas ça.
Ouais. Terminons rapidement avec Cédric Paquette, joueur éminemment sympathique, joueur d'énergie que le Lightning de Tampa Bay a longtemps aimé. C'est un joueur de soutien qui a passé plusieurs saisons là-bas. Finalement, après avoir gagné la Coupe Stanley à l'été 2020, il a été échangé au Sénateur d'Ottawa. Il n'a pas fait long feu là-bas. Il a fini la saison en Caroline où il ne jouait pas beaucoup. Sa carrière a semblé perdre de la vitesse la saison dernière. Mais c'est un gars qui a... je mentionnais beaucoup d'énergie, mais c'est un gars qui est capable de jouer au centre et à l'aile. Mais on peut pas... On parlait tout à l'heure de la ligne de centre, la possibilité que Kotkaniemi soit élevé sur le deuxième trio. Si la ligne de centre demeure aussi jeune, je vois personnellement, j'ai de la misère à voir Paquette supplanter Evans pour un poste de troisième centre. Le voir quatrième centre, OK. Mais troisième centre, ça m'apparaît, ce serait le signe que le Canadien, la formation du Canadien est un petit peu mal en point. Mais s'il se retrouve à jouer sur un quatrième trio, que ce soit au centre ou à l'aile, à l'âge qu'il a, il y a quand même encore probablement un petit peu d'années de service à donner. De toute manière, le risque est minimal. Il a été signé pour un an à moins de 2 millions par année. Alors, je pense que c'est pas non plus quelque chose qui hypothèque le Canadien ou qui le place dans le trou vraiment.
Oui, puis ce que je trouvais intéressant dans la conférence de presse de Marc Bergevin, c'est que c'est quand il a été questionné sur sa situation au centre, lui n'a pas mentionné Jesperi Kotkaniemi. Le gars qui a mentionné, c'est Jake Evans. Comme étant le gars qui pense qu'il est prêt pour prendre plus. C'est seulement par après, quand il était spécifiquement demandé sur Jesperi Kotkaniemi, qui a donné la réponse qu'il a donnée, ou oui, je pense à ça depuis 2 semaines, blablabla. Mais avant, quand il était demandé une question générale sur la position de centre avec le départ de Philippe Danault, le gars que lui a mentionné, c'était Jake Evans. Alors, oui, je suis d'accord avec toi que Cédric Paquette n'a pas été amené pour jouer plus que Jake Evans, mais il était ramené pour remplir certains rôles que Philippe Danault faisait auparavant. Tu sais, jouer en infériorité numérique, jouer, tu sais, commencer tes présences en zone défensive, mais tu sais, le fait qu'il est capable de jouer à l'aile comme au centre, le fait que c'est un gars qui est comme... qui a un peu côté peste, là. Il est capable d'aller déranger l'adversaire, jouer d'une façon physique, échec avant physique. Quand même,
il y a un côté Steve Bégin, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Pas pire coup de patin. Tu sais, il va pas marquer beaucoup de buts, mais c'est un gars qui est dérangeant sur la patinoire, là. Puis encore une fois, un gars qui se rapproche de chez lui, c'est un gars de Gaspé, puis c'est vraiment une autre fois que... Que le Canadien tire un peu avantage de la situation, de ramener un gars comme ça, mais ce gars contre qui le Canadien a joué plusieurs fois en série, puis il était un facteur de sa propre façon. Tu sais, il n'était pas le plus gros facteur, mais il était capable d'avoir un impact sur les matchs qu'il a joué en série, pas seulement contre le Canadien, mais en général pour le Lightning de Tampa Bay, depuis qu'il est parti en raison des problèmes de plafond salarial qui sont éternels à Tampa Bay. Ça a moins bien été. Il est allé à Ottawa. Il fallait qu'il conduise d'Ottawa à Caroline quand ils ont fait l'échange d'Alex Galchenyuk qui a été inclus là-dedans. Mais j'aime la signature, mais ça règle. Tu sais, Marc Bergevin n'a pas réglé le problème de qui va jouer deuxième centre. Est-ce que Kotkaniemi est prêt pour faire ça? Il l'a pas réglé, ce problème-là, avec Cédric Paquette. C'est pas une option, évidemment, pour jouer au deuxième centre. Et à mes yeux, puis je pense même aux yeux de Marc Bergevin, c'est même pas une option de jouer comme troisième centre. Alors, je pense, s'il y a rien d'autre qui change d'ici les prochaines semaines, là, on peut s'attendre à voir le Canadien commencer la saison avec Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans comme leurs trois premiers joueurs de centre. Et t'auras peut-être Cédric Paquette comme quatrième. Peut-être Ryan Poehling même, je sais pas, mais probablement Cédric Paquette comme quatrième centre, puis je pense que le Canadien, il va falloir qu'il voit si ça fonctionne ou non, là. C'est ils sont rendus là.
Écoute, je pense que la décision par rapport à ce joueur de centre-là, s'il y a un autre mouvement ou non, ça va en dire long sur le genre de saison auquel il faut s'attendre de la part du Canadien, c'est-à-dire que si le Canadien va chercher un joueur de centre un peu plus aguerri et permet de garder Kotkaniemi comme troisième centre, je pense que ça va être un signal lancé qui a un désir d'être encore très, très compétitif cette année. J'ai l'impression que si Kotkaniemi, on lui donne la chance d'être deuxième centre, ben, je pense que c'est une démarche qui est un peu plus à long terme, tu sais, puis qui pourrait suggérer davantage une année de transition, puis d'accepter le fait que peut-être que pour faire deux pas en avant, on ne serait pas trop mal à l'aise de faire un pas en arrière, puis de dire, puis qui sait, tu sais, peut-être que Kotkaniemi pourrait la saisir de cette chance-là. C'est peut-être la seule chose qui attend, lui, de dire, ben écoutez, donnez-moi-en des joueurs, des ailiers de qualité, des ailiers stables, tu sais, que ce soit mon tour de jouer avec Brendan Gallagher sur une base régulière, puis je vais être capable de trouver mon rythme, puis de pouvoir trouver de la constance dans mon jeu. Fait que c'est ce pari-là que doit déterminer Marc Bergevin à l'heure actuelle. OK, ben écoute, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Il reste encore... il va rester d'autres épisodes du Sport Athlétique. Je vous rappelle tout le monde que si vous n'êtes pas abonné à athlétique.com, vous pouvez le faire en vous rendant au athlétique.com/supportathlétique. Ce lien-là vous permet d'obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, athlétique.com/supportathlétique pour un rabais sur la première année de votre abonnement. On vous a parlé des textes de Jeremy Rutherford, de Pierre Lebrun. Et il y a une multitude. Ben, on a des correspondants dans toutes les équipes de la Ligue nationale, en plus de Harpin et moi-même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour aller lire tout ça. Il ne manque pas de contenu à la suite de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Harpin, merci beaucoup pour ta collaboration aujourd'hui.
Bon, mais ça fait plaisir. J'attends mon chèque par la poste ou ça va être un dépôt direct, là?
Ça va être un rabais postal, mon ami.
Un rabais postal, tant mieux.
Oui, tous les gens aiment ça.
Ouais. Okay. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Puis oui, effectivement, on va revenir à un moment donné, mais moi, je ne peux pas m'engager à quand ça va arriver, mais à un moment donné, on va revenir avec un autre épisode du sport athlétique. Mais en attendant, amusez-vous. Profitez-en de l'été qui va être terminé avant longtemps. Alors, profitez-en tout le monde, puis on se revoit bientôt.